Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Michel Nouaille, candidat du PCF et de Génération lors de l'élection législative partielle du 18 et 25 novembre dans la première circonscription de l'Essonne. Bonsoir.
Bonsoir.
Michel Nouaille, cette élection partielle aura lieu après la démission de Manuel Valls, qui était le député sortant et que vous aviez déjà affronté en juin 2017. L'ancien Premier ministre est désormais candidat au municipal à Barcelone. Alors, j'imagine que certains de nos auditeurs qui habitent l'Essonne ignorent s'ils vont pouvoir voter dans moins de 3 semaines. Déjà, il faut savoir s'ils habitent cette première circonscription. Qu'est-ce qu'elle recoupe comme ville, la première circonscription de l'Essonne?
Alors, cette première circonscription regroupe 5 communes. Évry, qui est également la préfecture de l'Essonne. Corbeil, qui est la 2e ou 3e ville en termes de population de l'Essonne. Ensuite, Courcouronnes, qui vient d'ailleurs de fusionner avec Évry, sans que la population ne soit concernée. Bondoufle, Lys et Villabé, donc 5 communes.
Alors vous-même, vous êtes habitant de Corbeil, la ville dont Serge Dassault a été longtemps le maire.
Bien sûr, j'habite Corbeil-Essonne depuis 1979 et je suis engagé en politique depuis cette date et j'ai été effectivement candidat aux élections municipales, en particulier en 2009 lorsque Serge Dassault a été invalidé. Et l'actuel maire de Corbeil, Jean-Pierre Bechter, m'avait battu de 27 voix, mais la justice a mis en examen Jean-Pierre Bechter pour grave infraction au code électoral, nous y reviendrons peut-être.
Alors, quels sont les atouts de cette première circonscription de l'Essonne, des atouts qu'il faudrait valoriser? Finalement, on a beaucoup politisé cette élection parce que Manuel Valls était candidat en juin 2017, mais il y a aussi des enjeux locaux dans l'Essonne.
Donc cette circonscription, c'est une circonscription jeune, de salariés, bien sûr des retraités aussi, mais de personnes qui sont dans l'emploi, et avec également un grand brassage culturel. Et donc c'est un terrain intéressant pour construire une vie ensemble, collective, et évidemment il faut répondre à des enjeux. Alors lesquels? Il y a l'enjeu de l'emploi. Beaucoup trop de personnes de cette circonscription partent loin et tôt travailler sur Paris, sur la Défense, dans d'autres endroits de l'Île-de-France, et donc reviennent tard. Et donc il y a vraiment un déficit entre l'habitat et l'emploi.
Il faut combien de temps pour aller d'Évry, par exemple, à Paris, ou de Corbeil à Paris?
Eh bien, de Corbeil à Paris, il faut 43 minutes, quand tout va bien. Demander à des habitants de Bois-le-Roi, qui habitent 2 fois plus loin que les Corbeil-Essonnois de Paris, ils mettent 33 minutes. Corbeil, Évry sont extrêmement mal desservis. Ce sont des omnibus et qui vont jusqu'à la gare de Lyon, voire jusqu'au Châtelet, gare du Nord, et au-delà. Omnibus est également sujet à des défaillances quasi quotidiennes.
Sur
donc
le
c'est une
RERD.
Vraie galère. RERD, c'est une vraie galère.
Alors vous avez parlé de l'emploi et on voit que ça a un impact évidemment sur la question du transport. Quels sont les autres enjeux locaux de cette élection, Michel Nouaille?
Écoutez, cette circonscription, on pourrait dire que c'est la première de la province du sud de l'Île-de-France ou la dernière de banlieue. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, elle doit trouver une vraie identité avec cet équilibre de logement, d'emploi, mais aussi de culture et de loisirs. Il y a la Seine, qui est l'Essonne, qui sont quand même des ressources très importantes pour anciennement l'activité industrielle et économique. Mais pourquoi pas, si nous devions, au niveau national, retrouver un dynamisme dans le transport fluvial, qui est extrêmement délaissé. Donc il y a un enjeu économique autour de la Seine et de l'Essonne, mais il y a aussi un enjeu de loisirs, puisque on y pratique dans cette circonscription l'aviron, la voile, le canoë-kayak.
Vous êtes en train de nous dire, Michel Nouaille, que c'est une circonscription où il fait bon vivre aussi?
Elle pourrait être cette circonscription, à condition que aussi les services publics soient à la hauteur des attentes. J'ai dit une circonscription jeune, donc forcément un besoin d'école de qualité, un besoin de transport, nous l'avons dit, un besoin de culture, un besoin de loisirs, un besoin de santé. Et donc, c'est à tous ces enjeux-là qu'il faut pouvoir répondre.
Est-ce que Manuel Valls, qui a été Premier ministre, a réalisé des choses importantes pour l'Essonne que vous pouvez saluer, même si vous êtes en désaccord politique avec lui?
Écoutez, en faisant campagne l'an dernier sur Évry, Corbeil, je connais bien, je pourrais en reparler, sur Évry, j'ai noté que Manuel Valls avait indéniablement marqué son territoire de maire au début de son mandat dans les années 2001. Ça, je crois que même des opposants politiques le notent. Voilà. Il y a eu un certain dynamisme de la mairie à travers les équipements, à travers l'urbanisme. Apparemment, ce dynamisme s'était progressivement essoufflé. Et d'ailleurs, ça s'est traduit par les scores aux élections municipales de 2014, où, à sa grande surprise, il a été mis en ballottage, alors qu'auparavant, il était élu avec des scores très importants.
Vous faites un lien entre le fait qu'il est devenu un homme politique national. Quand on devient une figure nationale, on a tendance parfois à ne plus s'intéresser à la circonscription autant qu'auparavant.
Écoutez, ce que j'ai noté en tout cas, et ce qui s'est traduit dans les urnes, c'est que il y a eu un rejet de Manuel Valls en 2017, lié...
Il a été élu avec très peu de voix d'avance.
130 voix d'avance. Ça a été un véritable tsunami. J'en ai été l'observateur.
Et l'un des acteurs.
Mais au premier tour, on pouvait penser qu'il fait 23 ou 22% des voix, ce qui est rare, ce qui est peu. Mais au second tour, il y a eu un rejet massif de Manuel Valls, alors que 5 ans plus tôt, il avait été élu largement.
Et comment l'expliquez-vous, Michel Nouaille ?
Ben, je pense que la population, la circonscription de la première, elle a été directement atteinte, douloureusement, par la politique menée par Manuel Valls. Ses renoncements économiques et sociaux, et puis ses dérives. Ces dérives, pensons à la déchéance de la nationalité, qui ont été extrêmement mal vécues par toute la population de gauche, évidemment, mais aussi par la population qui, de par ses origines, est particulièrement sensible à la citoyenneté et à la nationalité.
Alors, parmi la dizaine de candidats, il y a Farida Amrani de la France Insoumise, que nous avons reçue dans cette émission la semaine dernière, Francis Choix, à qui nous avons adressé une invitation, ou encore Eva Sass, candidate écologiste soutenue par l'EPS, et que j'aurai plaisir à inviter sur ce plateau. Pour quelles raisons avez-vous décidé de vous représenter? Je rappelle que vous aviez fait 7,58% des voix en juin 2017.
Alors, ma réponse peut être un peu longue, je m'excuse.
Vous avez le temps, ça tombe
il
bien.
Il faut revenir sur l'histoire. Je pense que tous les députés France Insoumise, les 16 députés, les 17 députés, se rappellent de la soirée du mercredi 30 novembre 2016. Le 30 novembre 2016, les France Insoumise organisaient l'audition des potentiels candidats aux élections législatives. Tous les citoyens qui voulaient se présenter avec le label France Insoumise étaient invités à venir être auditionnés par les groupes d'appui. Je m'y suis rendu. J'ai été auditionné. Et à la suite de cette soirée, le compte-rendu qui est remonté à France Insoumise nationale, c'était qu'il me proposait comme candidat. À cette réunion institutionnelle, réglementaire, il était mis que seuls ceux qui avaient été auditionnés pouvaient postuler. Ni Farida Amrani, ni Ulysse Rabaté. Et quelques mois plus tard,
qui est le supplément de Farida.
Et si vous vous reportez sur le compte-rendu, il est dit que les groupes d'appui ont entendu dire que Farida et Ulysse voulaient se présenter, mais que pour eux, il était hors de question pour des raisons qui les concernent. Et quelques mois plus tard, il m'a été dit, mais Michel Nouaille, vous êtes également soutenu par le Parti communiste, il faut choisir, soit France Insoumise, soit le Parti communiste. Et je me rappelle très bien leur avoir dit, François Quinquart, qui est responsable du collectif, enfin, une des responsables du collectif électoral de France Insoumise, je lui avais dit au téléphone très gentiment, François, si on veut battre Valls, il va falloir rassembler sur des bases claires, antilibérales, qui vont sans concession sur son bilan, mais il faut rassembler, sinon on n'y arrivera pas. Et il m'a été dit, tu dois choisir. Et à partir de là, les groupes locaux de France Insoumise n'ont pas fait campagne pour Farida Amrani. Ils ont essayé encore au mois de fin mai, début juin, d'organiser une réunion de concertation à laquelle je me suis rendu. Ni Farida ni Ulysse ne sont venus. Donc déjà, vous savez, entre même les groupes d'appui de France Insoumise et les deux candidats, il y a difficulté. Et dernière chose, pour l'élection de 2018, dès connu la démission de Manuel Valls, j'ai adressé un coup de téléphone et un communiqué à Farida pour lui dire « Farida, tu as une vraie légitimité. Donc je ne discute pas ta candidature. Simplement, si nous voulons gagner, il faut que tu montres que tu cherches à dépasser la limite parce qu'au premier tour, elle n'avait fait que même pas 18% des voix, Farida. La limite de la France Insoumise. Donc je te propose, on me propose d'être ton suppléant. Et j'étais prêt à le faire. Et elle nous a dit, non, nous renouvelons le ticket de 2017 et nous mènerons la campagne France Insoumise. Si vous voulez nous soutenir, nous vous paierons votre acte.
Finalement, ce qui se passe dans l'Essonne, c'est un peu le reflet aussi de la stratégie de la France Insoumise au niveau national. Pas d'alliance. La France Insoumise se représente elle-même. On voit quand même qu'il y a des alliances possibles avec quelqu'un comme Emmanuel Morel qui pourrait être candidat avec la France Insoumise aux européennes.
Depuis le début 2016, j'ai toujours dit qu'il fallait essayer de faire ce que François Ruffin avait réussi dans sa circonscription. C'est-à-dire, il est France Insoumise, il a une suppléante communiste. Pourquoi ce qui a été possible de faire à Amiens, je ne me compare pas avec François Ruffin, évidemment, mais pourquoi ne pourrait-on pas le faire ailleurs quand c'est possible? Et évidemment, les faits que j'ai rapportés qui sont indiscutables, eh bien, nous inquiètent. Pourquoi? Parce que France Insoumise, avec lequel on partage beaucoup de points de programme, et je trouve même, je l'ai écrit sur mon blog, L'avenir en commun est un beau titre au regard de notre perspective d'interdépendance sur le monde et sur la planète. L'avenir en commun, c'est un beau titre, et le programme, j'en partage évidemment beaucoup. Mais comment peut-on envisager de remettre l'avenir de la gauche, l'avenir de l'opposition, voire l'avenir du pouvoir à un mouvement qui se dit, entre guillemets, non démocratique, qui se dit gazeux, et qui se veut hégémonique? C'est pas le programme...
La France Insoumise se dit non démocratique?
Ah ben écoutez, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, j'ai également recité des propos de, Romain James, qui est un militant important de France Insoumise, il m'avait dit, non, on n'a pas vocation à être un mouvement démocratique. Jean-Luc Mélenchon dit même gazeux.
Qu'est-ce que ça signifie pour lui, Michel Jouan,
gazeux? Je ne sais pas. En tout cas, et sans polémique, au regard de la gravité de la situation en France, en Europe et dans le monde.
Vous étiez prêt à être suppléant, c'est-à-dire finalement à ne pas être député.
Exactement.
Mais symboliquement, avoir une candidature commune. J'imagine tout de même que vous vous retrouverez après le premier tour,
bien
Michel
sûr.
Noailles.
Donc, en 2010,
ce que vous aviez fait d'ailleurs
en 2017, j'avais dit aucune ambiguïté, Manuel Levalt doit être battu et le second tour c'est Farida Amrani. Mais j'avais dit à Farida Amrani, sois un peu, concrétise un peu ton autonomie. Tu sais très bien, elle me le disait, il faut rassembler, il faut élargir. Eh bien, vas-y Farida, élargis. Et élargis, donne des signes concrets. Ça aurait pu être cela, ça
alors,
ne l'a pas été.
Alors vous, vous êtes candidat du Parti communiste, mais aussi de Génération, nouveau mouvement politique créé par Benoît Hamon. Comment s'est concrétisée cette alliance?
Écoutez, Génération avait publié un communiqué qui allait dans le même sens que nous, c'est-à-dire appelait toutes les forces de gauche à se retrouver. Nous sommes retrouvés le 13 octobre, samedi soir. Farida est venue en disant « je serai candidate ». Et donc, il n'y avait plus de discussion possible. Et ensuite, les autres forces de gauche ont échangé, les Verts, Génération, le PCF, ensemble, et nous avons vu ce qui était possible de construire. Génération était très attachée à la construction d'un binôme et d'une campagne avec ancrage local. Et vous avez cité les 7,5% que j'ai fait sur la circonscription, ce qui est vrai, c'est près de 12% sur Corbeil. Donc il y avait un vrai socle. Malheureusement, le PS a proposé de nous mettre derrière Jérôme Gedge. Je ne discute pas ses qualités personnelles, mais il est encore au PS et on ne pouvait pas envisager. Toutes les forces ont dit qu'ils ne pouvaient pas envisager d'être derrière un candidat PS. Et les Verts nous ont dit qu'au niveau national, la décision d'avoir un candidat ou une candidate à toutes les élections d'ici les européennes était prise. Donc on ne pouvait que construire avec Génération. J'en suis très satisfait, mais j'aurais pu espérer construire, évidemment, avec d'autres composantes.
L'Essonne a donné beaucoup de personnalités, je dirais, de stature nationale. Vous avez évoqué Jérôme Gedge, qui a été député. Il y a eu Julien Drey, Manuel Valls, et puis Jean-Luc Mélenchon, qui vient aussi de votre département. Vous connaissez tous, en fait.
Écoutez, non. Pourquoi? Parce que je suis candidat. Mais je n'ai jamais déjà exercé de mandat, si ce n'est de conseiller municipal à Corbeil. Et puis, j'ai toujours été enseignant. Donc, vous voyez, je ne connais pas, on va dire, le microcosme politique. Hein. Et d'ailleurs, j'en suis des fois très satisfait, parce que ce n'est pas un monde que j'apprécie particulièrement. le microcosme. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, je ne l'ai jamais rencontré, si ce n'est lors de son meeting à Évry il y a 18 mois ou 15 mois. Jérôme Guedj, oui, parce qu'en tant que président du Conseil Général, mais lors des réunions publiques. Et puis, Julien Drey, alors absolument jamais. Voilà. Emmanuel Valls, oui. Je n'ai plus grand-chose à lui dire.
Alors, autre candidature, Michel Nouaille, celle d'Eva Sas, qui, elle, est investie à la fois par Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. Comment ça se fait que là, vous n'avez pas réussi à vous allier avec elle ?
Écoutez, je pense que les Verts ont décidé, au niveau national, d'avoir des candidats titulaires à chaque élection d'ici les prochaines européennes. Donc, ça nous paraissait, à Génération et à nous, difficile de nous mettre derrière une candidate verte qui, en plus, qui a des qualités indéniables, qui a été députée, mais qui n'est pas de la circonscription.
Alors, on n'a pas parlé d'un candidat important dans cette élection, c'est Francis Choix, maire d'Évry, proche de Manuel Valls. C'est lui votre adversaire principal dans cette élection ?
Écoutez, au second tour, nous verrons, je pense que beaucoup disent qu'il sera au second tour. Effectivement, il est maire de la préfecture, de la ville-préfecture. Il est soutenu par ses quatre autres collègues de droite. Donc, lui dit qu'il a des atouts. Et il fait une campagne, d'ailleurs, uniquement territoriale. Lorsqu'on regarde le matériel de Jean-François Choix, on a l'impression qu'on va élire un maire. Non, on va élire un député qui vote le budget et qui vote les lois. Donc, nous pourrons y revenir. Mais c'est vrai qu'il part, a priori, en position de favori. Mais quand on est sur le terrain, on s'aperçoit que l'électorat socialiste, qui est important dans la circonscription, est totalement désorienté, avait été désorienté par Manuel Valls, mais il est encore plus avec les soutiens de Francis Choix, et soutenu par les cinq maires de droite, et la droite locale, la droite, les Républicains, ne se reconnaissent pas, dans les militants ne se reconnaissent pas dans ce ralliement de leur maire à un candidat député qui défend la politique du gouvernement. Tous les maires disent quoi ? Se plaignent de la diminution des dotations de l'État aux collectivités territoriales. Et donc, incohérence totale.
L'invité de Pluriel est Michel Nouaille, candidat du PCF et de Génération lors de l'élection législative partielle du 18 et 25 novembre dans la première circonscription de l'Essonne. On se retrouve dans quelques instants.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Nouaille, candidat du PCF et de Génération lors de l'élection législative partielle du 18 et 25 novembre dans la première circonscription de l'Essonne. Alors, vous avez commencé à nous parler un petit peu de votre parcours. Vous nous dites que vous êtes enseignant, que vous êtes dans la circonscription depuis 1979. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre biographie, puisque vous serez peut-être le prochain député de la circonscription et les habitants ont envie de vous connaître?
Écoutez, je suis un enfant d'une famille de quatre enfants, trois sœurs et moi, parents enseignants qui m'ont beaucoup apporté par les valeurs qu'ils avaient en eux. Ma maman, professeur d'histoire géographie, mon papa au début instituteur puis inspecteur, qui pendant la guerre était orphelin et qui s'est caché pour pas partir au STO. Vous voyez, ça marque. De sensibilité protestante, ça marque aussi. Voilà, donc un héritage culturel de gauche. Aucun n'était membre du Parti communiste, mais avec des valeurs. Je me rappelle mes parents pleurant après la manifestation et la répression criminelle de la manifestation des Algériens à Paris.
17 octobre 1961.
On a toujours su, nous, dans la famille, qu'il y avait des Algériens qui avaient été jetés à la Seine. Je vois encore ma mère pleurer à Charonne. Voilà, donc voilà, un héritage culturel. Un héritage aussi dû à certains de mes enseignants. J'ai cité hier sur mon Facebook René Delplace, membre du Parti communiste, mais immense formateur d'enseignants, et en particulier à travers les sports collectifs et le rugby. Donc j'étais influencé, je suis venu plutôt au Parti communiste par la puissance, vous voyez, intellectuelle dans les années 70 de certains, Lucien Sèvres et d'autres, Gérard Vergniaud et d'autres, qui étaient membres du Parti communiste français Et je suis plutôt arrivé à la politique par la puissance intellectuelle qu'il me donnait.
Alors, vous êtes devenu enseignant de sport.
Oui,
qu'est-ce que le sport vous a appris, je dirais, sur la vie et sur l'engagement?
Ben, l'engagement est à la base même du sport, puisque ça demande la mise en mouvement et une application. Mais surtout, c'est la solidarité. C'est-à-dire qu'en sport, on n'arrive pas tout seul. Voilà. Donc, en rugby en particulier, que j'ai fait pour une part à l'université, mais l'escalade et l'alpinisme que je fais aussi, la voile, c'est à chaque fois la nécessité de valoriser les ressources de chacun pour réussir ensemble la meilleure prestation possible.
Michel Nouaille, tout à l'heure, vous nous avez dit en substance que vous n'étiez pas attiré par le microcosme politique et pourtant, vous êtes candidat à un mandat. Vous voulez faire de la politique autrement, si je vous comprends bien. Vous avez donc connu, je dirais, Corbeil, Le Maire, Serge Dassault, des affaires. Est-ce que ça vous a dégoûté de la politique, je dirais, tout cet épisode-là? Est-ce que vous avez failli renoncer à la politique?
Renoncer, non, parce que, comment dire, la politique, c'est les élections. Mais j'ai des fois tendance à dire que les élections peuvent être une caricature de la politique ou peuvent être une illustration appauvrie de la politique. Quand le débat tourne à l'invective ou à la polémique, ça ne viendra jamais de mon fait. Mais non, pourquoi? Parce que je suis particulièrement... la politique, pour moi, c'est comment on organise la vie ensemble, quoi, comment on arrive à s'en sortir ensemble sur cette planète. Et les enjeux sont de plus en plus importants, urgents. J'ai toujours tendance à dire que derrière la crise de la politique que l'on voit, à travers l'élection de Macron, et puis le déclin et les difficultés qu'il rencontre fort légitimement, mais aussi par rapport aux difficultés de l'opposition à se construire, il y a une crise historique de la gauche et il y a une crise anthropologique. Et la politique doit se saisir de ça. Et doit se saisir des enjeux les plus fondamentaux. Donc renoncer à la politique, non. Renoncer à être candidat, sans doute, parce que c'est un aspect de la politique, mais ce n'est pas celui qui me passionne le plus.
Alors là, concrètement, vous vous mettez déjà dans la peau du député que vous serez peut-être le 25 novembre à l'issue du deuxième tour. Comment vous envisagez votre rôle de député, Michel Nouaille?
Ben, écoutez, je pense que je souhaite être un... citoyen député et un député citoyen. Voilà. C'est-à-dire que je ne me vois pas, et je sais que les charges du travail en commission sont lourdes, mais j'aimerais pouvoir faire en sorte que d'être nourri en permanence par les contacts, les relations avec le terrain, parce que c'est ça qui doit justifier les propositions et les choix. Donc déjà, un député citoyen, mais aussi, et parmi les citoyens, mais aussi un député vraiment intransigeant contre la casse sociale et démocratique et écologique de Macron, mais portant aussi les revendications qui me semblent essentielles, c'est-à-dire se réapproprier les richesses que produisent les salariés, les travailleurs. Il y a actuellement au niveau national, européen et mondial, une véritable aspiration des richesses produites. On sait bien 1000 milliards en Europe d'évasion fiscale, 60 à 80 milliards par an, les dividendes qui explosent, et tout ça au détriment de la vie commune. Donc je veux être là-dessus, député citoyen, citoyen député, pointant les questions essentielles sans lesquelles il n'y aura pas d'évolution possible, et ces richesses retrouvées au service de quoi? De la transition énergétique, écologique, pardon, qui est urgentissime, mais aussi des services publics, parce qu'on sent quand même que la société, pour une part, se disloque, et le bien commun, ce sont les services publics.
Michel Nouaille, dans l'histoire récente, le Parti communiste a toujours été dans l'opposition, sauf durant l'épisode de la gauche plurielle et durant les premières années du septennat de François Mitterrand. À quoi sert véritablement le groupe du Parti communiste à l'Assemblée nationale?
Ben, là, je pense qu'on peut se réjouir que les groupes du Parti communiste et de France insoumise donnent une image de travail complémentaire et cohérent. Moi, je ne suis pas, évidemment, dans les séances, mais je vois qu'ils défendent, ils votent les mêmes textes, ils défendent les mêmes amendements. Et donc, je crois qu'il y a à renforcer cela. Mais c'est vrai que le Parti communiste s'est affaibli. Et ce qui me frappe, c'est que, lors de cette campagne, les attentes vis-à-vis de la gauche de justice sociale, de la gauche antiraciste, antidiscrimination, cette gauche que veut porter le Parti communiste, eh bien, il y a une attente qui s'affirme davantage. Donc, oui, le Parti communiste peut être perçu par certains comme en difficulté, ce qu'il est, il ne faut pas le nier, mais je pense qu'au regard des besoins de la société et des électeurs qui souffrent le plus, il y a vraiment un avenir possible.
Mais quand on est finalement minoritaire, quel est l'intérêt, Michel Nouaille, d'avoir un député de gauche de plus ou de moins? Est-ce que ça peut changer la donne au sein de l'Assemblée si les électeurs votent pour Francis Chouat, qui est plutôt proche de, d'Emmanuel Macron, bah, il renforcera la majorité. Mais si vous êtes élu, vous ne ferez pas grand-chose contre ce gouvernement.
Je crois que c'est là une des spécificités de cette élection. Oui, si je suis élu, j'irai renforcer le groupe communiste et républicain. Le groupe est l'opposition de gauche à Macron. Mais si je suis élu, eh bien, ça sera aussi un signe important pour la gauche. Parce que face à la montée des périls, la gauche donne actuellement une image d'éclatement. Or, ce que je fais avec Joël Cariasson, qui est ma suppléante, c'est que nous travaillons sans arrêt pour construire des rassemblements, sans ambiguïté, mais des rassemblements. Et donc, si notre candidature devait retrouver un écho important, ça montrerait à tout le monde que la responsabilité de chacune des composantes, c'est de travailler autant que possible au rassemblement dans la perspective des européennes, dans la perspective des municipales, dans la perspective des futures élections législatives.
Alors, une élection partielle n'intéresse pas beaucoup les électeurs, alors que quand il y a une élection nationale, tout le monde est informé de l'élection. Vous redoutez l'abstention, c'est un des enjeux aussi de cette élection, les 18 et 25 novembre.
Écoutez, c'est un enjeu de mémoire, je devrais vérifier, mais au premier tour des législatives de 2007, je crois que à peine 50% des électeurs s'est déplacé. C'est une première circonscription, elle souffre énormément de la politique menée depuis des années et qu'amplifie Emmanuel Macron. Donc oui, un vrai discrédit de la politique, et c'est ce que nous disent les gens, à quoi bon aller voter? Donc oui, on peut redouter une très forte abstention, mais je ferai tous les jours nous sommes dehors, pour intéresser au maximum les électeurs à cette élection, qui a un enjeu pour renforcer l'opposition à Macron, mais aussi pour faire réfléchir la gauche à ses responsabilités.
Vous êtes dehors toute la journée depuis que la campagne a commencé. Vous faites du porte-à-porte, vous allez sur les marchés. Comment se passe cette campagne, Michel Nouaille?
Écoutez, nous sommes dehors, nous faisons du porte-à-porte, des points fixes. Colère et inquiétude. La colère, je crois que c'est pas la peine que j'y revienne. Colère vis-à-vis. J'ai croisé tout à l'heure, dans le quartier des Tarterets, un monsieur qui a travaillé toute sa vie et qui me dit, quand j'ai tout payé, il me reste 20 euros pour m'alimenter du mois. 20 euros. Et ce monsieur n'est pas un cas isolé. Donc une colère terrible. Et que je comprends et que je vais porter. Mais également une grosse inquiétude. Moi, ce qui me frappe depuis que je suis en campagne, depuis 15 ou 3 semaines, c'est que les gens sont inquiets. Inquiets de l'évolution de la situation politique. Parce qu'il sonne bien que ce président méprisant, qui n'a finalement pas de légitimité, qui est seul, eh bien, les gens se demandent comment ça va se terminer sur le plan politique. Et l'opposition de gauche étant éclatée, eh bien, ils cherchent une perspective d'espoir. Et donc, il y a aussi l'inquiétude par rapport aux questions environnementales et une inquiétude par rapport au contexte international. Beaucoup me disent, mais ça va se terminer par une guerre. Donc, je veux contribuer à répondre en donnant, évidemment, des perspectives d'espoir.
Le Parti communiste se bat pour le maintien des services publics. J'ai vu que le groupe communiste à l'Assemblée s'est mobilisé contre la fermeture de la maternité du Blanc dans l'Indre. Ça, c'est un des combats que vous entendrez mener si vous êtes élu, Michel Nouaille.
Bien sûr. Les députés communistes ont fait le tour de France des hôpitaux. Et dans le département de l'Essonne, 3 hôpitaux sont menacés de fermeture. Orsay, Longjumeau, Juvisy. Il y a une mobilisation qui a démarré depuis plus d'un an, avec des comités de citoyens, avec les syndicats, et une manifestation se déroulera samedi 17 novembre, donc la veille du premier tour, et évidemment, je serai à cette manifestation pour défendre et promouvoir des services publics rénovés.
Vous pouvez continuer.
Non, ces services publics, c'est le bien commun de la nation. Et donc, il faut les défendre, il faut les développer, c'est un des combats essentiels que nous menons.
Le gouvernement a récemment présenté un plan de lutte contre la pauvreté. De nombreuses personnes n'ont pas d'aide car les dispositifs sont complexes ou mal connus. Qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre la pauvreté? J'imagine que vous avez des exemples en tête dans l'Essonne.
Ben écoutez, il y a à la fois, l'an dernier j'avais mené un travail, une action conséquente et continue auprès des allocataires de la CAF. de l'Essonne, qui étaient accueillis et qui sont encore accueillis dans des conditions déplorables. Des fois, ces personnes attendent avec des enfants 2-3 heures avant d'être reçues dehors. J'ai obtenu, et je veux dire, j'ai, parce que je me suis battu pour cela, qu'il y ait un auvent qui les protège de la pluie et qu'il y ait 2 sanitaires situés dehors. Enfin, c'est très très loin de ce qu'il faudrait. Donc déjà, répondre de manière digne, efficace aux urgences sociales. Et là, il y a beaucoup à investir dans les moyens dont dit. Mais après, la pauvreté, elle reculera avant tout s'il y a le recul du chômage et s'il y a l'amélioration des salaires. Parce qu'aujourd'hui, j'ai discuté hier avec une jeune assistante sociale de la Maison des Solidarités de l'Essonne à Juvisy, qui me dit que depuis 5 ans, elle voit de plus en plus de travailleurs pauvres. C'est-à-dire que des personnes qui ont des petits boulots et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, lutter contre la pauvreté, oui, dans l'urgence, la réactivité des services de l'État, mais aussi le travail. Et moi, nous sommes communistes, mais je suis, moi, à titre personnel, un défenseur acharné du travail. Parce que je pense que c'est déjà une activité la plus noble de l'espèce humaine. Et en plus, c'est par le travail, justement rémunéré, que l'on peut sortir de la pauvreté et gagner en émancipation et en dignité.
Un an après l'appel de Grigny, que pensez-vous de l'action d'Emmanuel Macron en faveur des quartiers populaires, Michel Nouaille ?
Bah, écoutez, je pense que le rapport Borloo qui avait été commandé par Macron a été renvoyé. Borloo a été renvoyé dans ses 22 mètres, pour reparler de rugby. Hein. Donc, actuellement, une grande désillusion, j'ai l'impression. Des maires en particulier investis, comme Philippe Rio à Grigny, ils peuvent obtenir quelques petites avancées, par exemple l'amélioration de l'habitat social. Je crois qu'il y a eu des luttes importantes à Grigny qui ont débouché, mais ça passe par un investissement de l'État important dans les services publics, parce que lorsque l'on dit que ces quartiers, des fois populaires, sont des zones de non-droit, sont des zones de non-droit au regard de ce qu'ont droit tous les habitants et citoyens de France. C'est-à-dire, on sait très bien que les écoles, la France dépense moins d'argent dans les quartiers populaires que dans les quartiers ou les villes bourgeoises, que les services publics, les postes ferment, et je pourrais aligner d'autres exemples. Donc, je reviens aux services publics. Il faut réinvestir massivement dans les services publics dans ces quartiers qui en ont énormément besoin.
Michel Nouaille, un mot de la Palestine. Nous savons que c'est l'un des sujets qui compte beaucoup pour le Parti communiste, mais aussi pour Génération, que vous représentez lors de cette élection. Des Palestiniens sont tués chaque semaine par l'armée israélienne à Gaza. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement français, de l'Union européenne sur le dossier israélo-palestinien ?
Il se trouve que je vais en Palestine depuis 3 ans avec la FSGT, pour faire de la formation d'animateur et de prof de PS. Donc il y a encore 2 mois, j'étais à Ramallah et à Tulkarem et à Qalilia pour organiser des intervenir dans des stages de formation. Donc je suis effectivement sensible à cette question qui est d'une injustice totale. Les droits des Palestiniens sont reconnus par l'ONU depuis 67. Les résolutions sont prises et elles sont foulées aux pieds par la communauté internationale, en particulier par les États-Unis. La France n'a toujours pas reconnu la Palestine. Et lorsque nous avons interrogé Cédric Villani à la Fête de l'Humanité, qui était venu nous rencontrer à la Fédération de l'Essonne, il nous a dit « Ah, c'est quand même difficile que la France soit à l'avant-garde. » Attendez, il y a plus de 100 États qui ont reconnu la Palestine. Je crois que le Vatican a reconnu l'État palestinien. Donc il y a une justice à rendre aux Palestiniens qui sont désespérés. Moi, ce qui me frappe, c'est quand je vais en Palestine, je vois des gens qui veulent vivre, qui veulent être heureux, qui veulent surtout pas que leurs gamins connaissent les ravages de la guerre, la cruauté de la guerre, qui veulent que leurs gamins soient comme les gamins de tout le monde entier, puissent se développer tranquillement, jouer, mais ils se sentent totalement abandonné. Et donc, il y a une injustice totale à réparer.
Michel Nouaille, il y a beaucoup d'inquiétudes après l'élection d'un président d'extrême droite au Brésil. Est-ce que vous soutenez l'initiative de l'élu communiste de Saint-Denis, Sylvia Capanema, qui veut construire un réseau de solidarité et de résistance internationale pour faire face à Bolsonaro ?
Écoutez, je pense que le peuple brésilien, a voté, mais il a voté dans quelles conditions ? 30%, je crois, d'abstention. Et Bolsonaro, avec son programme fascisant, est élu, il a gagné, eu plus de voix que son candidat de gauche, mais à une politique qui mérite l'inquiétude, qui déclenche l'inquiétude. Et donc, voyons avec les démocrates brésiliens ce qu'ils attendent de la communauté internationale. Mais en tout cas, c'est mettre en sous surveillance, protéger le peuple brésilien quand on a en tête la violence des propos de ce président. Bon, qui a un modèle, hein, c'est Trump. Ça me semble une initiative tout à fait pertinente.
Il faudrait que la France accueille les Brésiliens qui souhaiteraient réclamer l'asile politique en France, comme on l'avait fait avec les Chiliens dans les années 70. C'est peut-être un peu prématuré, mais certains y songent déjà.
Écoutez, voyons comment va évoluer la situation. Mettons la pression sur le gouvernement brésilien, sur son pouvoir. Pas touche à la démocratie, pas touche aux démocrates, pas touche aux syndicalistes. Et oui, il y a une grande vigilance à construire. Et je trouve que cette proposition, que je ne connais pas dans le détail, mais me semble totalement pertinente, oui.
Michel Nouaille, vous êtes candidat aux législatives du 18 novembre dans la première circonscription dans l'Essonne. La prochaine élection nationale et européenne, c'est donc les élections européennes de mai prochain. Vous êtes inquiet de la montée du populisme. Les partis d'extrême droite gagnent la plupart des élections en Europe. Vous redoutez de voir l'extrême droite entrer en force au Parlement européen?
Mais nous sommes je suis très inquiet, parce que évidemment l'extrême droite, on sait ce que c'est en Europe. Elle est au pouvoir. Et après, il faut savoir pourquoi l'extrême droite monte. Nous avons combattu, pas suffisamment entendu, nous avons combattu cette politique européenne depuis des décennies. Le Parti communiste n'a accepté aucun des traités qui organisent la concurrence libre et non faussée entre les États, entre les entreprises, entre les nations. Donc c'est cette politique-là qui a été menée par l'Europe qui est la cause essentielle, principale de la montée de l'extrême droite. Pourquoi ? Mais parce que ça aboutit à la déqualification des travailleurs, à la pression sociale sur les salaires, à la pression environnementale. Donc les Européens, de leur diversité, se sentent complètement maltraités, niés, humiliés par cette Europe-là. Et donc les causes, on les connaît, et donc les solutions, on les connaît aussi. C'est de construire des listes de gauche qui vont valoriser la solidarité, la coopération, dans le respect des nations évidemment, des projets communs, mais en élevant par le haut les exigences sociales, environnementales en particulier. Donc oui, je suis inquiet. La perspective, c'est le rassemblement. Et à toute petite échelle, avec Joël, nous cherchons à construire cette amorce du rassemblement. Et si nous obtenons un score conséquent, ça sera aussi un signe national que là est sans doute la voie pour ne pas voir les périls s'amplifier.
Merci Michel Nouaille. Je rappelle que vous êtes le candidat du Parti communiste et de Génération lors de l'élection législative partielle qui se déroule donc le 18 et le 25 novembre dans la première circonscription de l'Essonne. Bonsoir.
Merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.